Ça me fait quand même quelque chose apporter ce message. Il y a 2 semaines, lors du dernier dimanche du coup de l'année, nous avons partagé un message qui était comme une fenêtre ouverte sur 2016. Avec ce titre, vous serez en bénédiction. Mais si nous pouvons être en bénédiction, c'est parce que il y a une réalité, un préalable, c'est que nous sommes bénis. Comme dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Nous étions arrêtés sur la deuxième partie, une source de bénédiction. Mais là, on va s'arrêter sur la première partie et le fait que nous sommes et que vous êtes bénis. Et pour illustrer cette pensée, je cherchais quel personnage pourrait nous parler ce matin, comment aborder cela. Et puis, à un moment donné, un homme m'est venu à l'esprit, et c'est Isaac. Isaac. On va regarder ensemble à Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, les versets premiers, versets premiers à 5. Genèse chapitre 26, versets 1 à 5. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, si je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité, toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Il y eut une famine dans le pays. Le fléau de la famine. La famine étant le manque presque total ou quasi total des ressources alimentaires dans un pays, une région aboutissant à la mort ou à la souffrance de la population. Il y eut une famine dans le pays. Quand il n'y a plus de ressources alimentaires, que faire quand il n'y a plus rien? Aujourd'hui, on dirait dans les grandes surfaces, quand il n'y a plus rien, même sur les marchés, etc., quand il n'y a plus rien, alors d'aller chercher là où il y en aurait. Et on le voit bien dans les régions frappées par la famine, on le voit bien, ces déplacements de population, etc. Et qu'est-il dit d'Isaac? Il y eut une famine et Isaac alla vers Abimélec. Abimélec. Abimélec, cet homme, n'est pas un inconnu dans la famille. Lorsqu'Abraham et Sarah ont séjourné à Guérar, là où Isaac voulait aller, bien avant sa naissance, Abimélec avait fait enlever Sarah. Et alors qu'il se dispose à aller à Guérar, Dieu lui apparaît. Et il lui dit au verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai. Amen. » Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, dans le pays-là, là où tu es là, dans ce pays-ci, là où il y a la famine, là où il n'y a plus rien à manger. Imaginez ce que ça peut faire. Reste là. Mais on voit que tout de suite après, Dieu lui fait une promesse. Dieu lui fait une promesse et... Parce que Dieu savait que c'était loin d'être évident. Il lui fait une promesse, il lui dit, je serai avec toi et je te bénirai. je te bénirai. » Là, tout de suite, ça rassure. Ça rassure. Tu restes là, mais je vais te bénir. Et c'est vrai que quand on lit le verset 7, il dit que lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Et quand je lis ça, je me dis que l'histoire se répète. L'histoire se répète. Il est arrivé la même chose à son père. On a lu au tout début là, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12 verset 10. Il nous est dit ceci. Et vous allez comprendre. Genèse chapitre 12 verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Ça vous fait penser à rien là ? Juste au passage qu'on a lu tout à l'heure. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer lui et sa femme avec tout ce qui lui appartient. Amen. Pourquoi j'ai voulu lire ça? On va le voir, il y a de grandes similitudes entre Abraham et Isaac, son fils. On va le voir, c'est incroyable. Là, le passage commence pareil. Il y eut une famine. Et Abraham, là aussi, décide d'aller quelque part. Et il dit, voilà, c'est ma sœur, on voit ces similitudes qui sont là. Et à la fin, il est dit que Pharaon le renvoya. On va voir ça tout à l'heure. Genèse 26, on revient à Isaac. Et des années plus tard, Isaac, son fils, reproduit ce qu'avait fait son père, le schéma. Et là, car il craignait lui aussi, avait peur. On voit ce que la peur peut nous faire faire. Et au verset 8, il est dit, « Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. » Il voit la proximité qu'a Isaac avec celle dont il a dit que c'était sa sœur. Abimélec voit que la proximité qu'ils ont, ce n'est pas la proximité qu'ont un frère et une sœur. Il voit bien qu'il y a plus que cela. Il va lui dire, verset 9, Abimélec fait appeler Isaac et il dit, certainement, c'est ta femme. C'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Et il continue en disant au verset 10, et Abimélec dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Et là aussi, quand j'ai lu cette question, cette question m'a rappelé quelque chose. Au chapitre 20 de la Genèse, Genèse chapitre 20, et au verset 8, Genèse chapitre 20, verset 8, Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? On voit cette question-là qui revient. Abimélec a l'expérience, le souvenir de ce qui s'est passé avec le père d'Isaac. Regardez au verset 17 de Genèse 20, Il est dit que Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Abimélec a un souvenir un petit peu douloureux de ce qui s'est passé. Ils avaient été frappés, lui, sa femme et les servantes, et personne ne pouvait enfanter. La stérilité était là à cause aussi de ce que voilà, de ce que Abraham avait dit et tout cela. Qu'est-ce que tu nous as fait? Il dit maintenant ça au fils, à Isaac. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au verset 11, en Genèse 26, il va donner cet ordre. Alors, Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Verset 12, Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Et on va faire là un petit peu une pause, une halte. Car l'Éternel le béni. Isaac sema. Savez-vous que nous sommes des semeurs? Nous sommes des semeurs. Et c'est Jésus qui le dit dans sa parabole, là, dans Matthieu, au chapitre 13, un semeur sorti pour semer. Et au verset 23, donc de Matthieu 13, au verset 23, il dira ceci. Matthieu 13, verset 23. Il dira, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Dans cette parabole, Jésus, n'est-ce pas, parle du semeur qui est sorti pour semer. Il sème et puis la parole tombe dans différents terrains. Et puis il y a pas les mêmes effets. Certains ne la reçoivent pas à cause des soucis, des séductions, etc. Toutes sortes de choses. Et il parle aussi de la bonne terre. Et là, cette semence produit du fruit 100, 60, 30. Vous savez, nous on sème la parole, mais nous c'est vrai qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça va donner, si ce sera, il y aura pas, ou si ce sera 100, 60, 30, on ne sait pas. Mais notre rôle, c'est pas ça, c'est pas de savoir ça en fait. Notre rôle, c'est comme Isaac. Il est dit que Isaac sema. C'est notre rôle, c'est ça. C'est de semer et de s'attendre à Dieu qui avait dit à Isaac, je te bénirai. Je te bénirai. Des fois, on raisonne en nous-mêmes, on se dit, oh, mais vraiment, mais si je lui donne ça, mais est-ce que vraiment, est-ce qu'il va la lire? Est-ce qu'il va la lire? Est-ce qu'elle va le lire? Mais savez, ça aussi, c'est pas notre problème. On voit les Bibles ou Testaments qu'on a pu donner ou autre à nouveau départ. On ne sait pas la c'est pas notre problème cela. Est-ce qu'il va le lire? Est-ce qu'il va le lire? J'aimerais vous donner quelques anecdotes qui nous encouragent dans le fait de semer. J'avais entendu ça quand j'étais encore à l'école biblique à Bordeaux. À un moment donné, on a fait une action avec les Gédéons et tout ce qui est universitaire, etc. Il y avait le forum des métiers, tout cela, et puis donc les étudiants ou futurs qui sortaient, et puis on donnait les Nouveaux Testaments, etc. Tout cela et des milliers qui avaient été donnés. Et il y avait eu une sorte de, on va dire, de séminaire à l'église de Bordeaux République, et puis plusieurs qui sont engagés dans les Gédéons, du coup, il y avait eu un historique de faits et des témoignages de données. Et alors là, on entendait les témoignages, étaient marqués par plusieurs témoignages, notamment ce témoignage, donc c'était une femme qui était à son volant, et il est arrivé qu'il y avait beaucoup d'attentes, embouteillages, etc. Et cette femme était vraiment mal intérieurement et projetée, avait des idées noires et projetée de mettre fin à ses jours. Et alors qu'elle était là dans sa voiture, ses pensées étaient là, Il y a une main qui là et qui toque à sa vitre. Elle baisse la vitre et puis la personne qui était là lui tend un évangile. Et cette femme qui prend ça et la personne s'en va. Et le témoignage raconte que cette femme, en lisant la parole de Dieu, cette femme s'est convertie. Autre témoignage d'un homme qui avait reçu un Nouveau Testament, mais qui rentrant chez lui, avait mis ça sur son armoire. Il avait mis ça sur son armoire. Et puis, des années plus tard, je dis bien des années plus tard, en faisant le grand rangement chez lui, et il rangeait, et puis, en allant au-dessus de son armoire, il retombe dessus. Il ne l'avait jamais ouvert. Jamais. Et puis, il a décidé de s'asseoir dans un fauteuil, là, dans sa jambe. Et puis, tiens, il s'est dit, je vais lire ce qui est écrit dedans. Et cet homme, en parcourant les lignes de l'évangile, cet homme a été touché. Et cet homme s'est donné au Seigneur. Et comme ça, je pourrais vous en donner d'autres pour vous dire combien nous, on s'aime. Et après, ça appartient au Seigneur. Mercredi soir, donc nous étions à Rezé. Nous étions à Rezé pour aussi, ben, notamment aussi saluer aussi les frères et sœurs de Rezé. Et à Rezé, il y a un frère qui a pris son baptême il n'y a pas si longtemps que ça. Et vraiment un beau témoignage. Et puis on parlait voilà à la fin de la réunion. Et il me disait que là, il y a depuis quelque temps quelques membres de sa famille qui commencent à venir à l'assemblée, à l'église de Rezé. Sauf erreur, le jour de son baptême, il y avait une vingtaine de personnes, je crois, de sa famille, quelque chose comme ça, était venu parce que vraiment c'était un homme avant qui était dans la drogue, etc. Il témoignait et le changement, la métamorphose qu'il y a, sa famille, les gens étaient interpellés, ils sont venus. Et puis, depuis quelque temps, il me disait, voilà, les gens de ma famille qui commencent à venir, je sais plus, ses beaux-frères ou belles-sœurs qui commencent à venir, il dit, j'aurais donné la Bible, lise la Bible. Et après, vous savez, nous, on fait ce que l'on peut faire, donner quelque chose à nous, on peut le faire, hein. Mais toucher le cœur, convaincre, etc., nous, ça, on peut pas le faire. Ça, c'est le Seigneur. Donc, c'est de semer. En donnant la parole à une personne, vous ne savez pas ce que ça peut produire derrière. Quelles répercussions cela peut avoir, ce que ça peut déclencher après, comme une réaction en chaîne ou même effet boule de neige. Il y a ici une sœur au milieu de nous qui pourra vous le dire, ce que ça peut déclencher juste d'avoir donné un évangile, ce qu'il y a eu derrière. Isaac a recueilli, après avoir semé, Isaac a recueilli le centuple, nous dit la Bible. Le centuple. On ne sait pas ce qu'Isaac a semé, hein, bien sûr, mais on sait, c'est qu'il a recueilli 100 fois plus. Récolter 100 fois plus que ce qu'on a semé, pour quelqu'un aujourd'hui qui serait dans le milieu agricole ou autre, ça ferait de lui un homme heureux. Enfin, 100 fois. Il recueillit cette année le centuple. Cette année. J'étais vrai, quand j'ai lu ça, ces deux mots m'ont restés là. Cette année. Une résolution, on sait que le début d'année, c'est le moment des résolutions, etc. Bien sûr, outre les résolutions récurrentes. Ah oui, cette année, c'est sûr, en 2016, c'est sûr. Je me mets au sport cette année, c'est sûr, oui. Bien sûr, cette année, je mange mieux. Oui, cette année, j'arrive à l'heure. Cette année, oui, résolution. Très bien. Mais outre cela, cette année, Seigneur, cette année, je sème. Cette année, une résolution. Et que moi, le premier, cette année, Seigneur, je sème. Il ne faut pas que je vous dise des choses, faut faire, et nous, on fait pas. Moi, je me suis dit, avant de partir, il faudra que c'est un de mes voisins, là, que j'ai vu, que je lui donne, notamment un jour, que je lui donne cela. Vous savez, des évangiles, là, quand vous sortiez tout à l'heure, il y en a plein, sur le comptoir de librairie, là, ils sont bleus, là. Ça coûte rien de prendre un, puis de donner à quelqu'un. Puis si vous dites, j'ai pas envie de tout prendre, ça va s'épuiser, vous inquiétez pas, au sous-sol, il y en a des milliers et des milliers encore. Verset 13, il est dit que cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, hein, Isaac, et jusqu'à ce qu'il devint fort riche. J'aimerais faire une application spirituelle pour nous. Lui, au départ, ce qu'il a fait, Isaac, il a semé. Il a semé, il ne savait pas ce qu'il y aurait derrière. Et il a semé parce qu'il y avait la famine. Et puis, ça s'est multiplié. N'y a-t-il pas une famine spirituelle dans notre pays? N'y a-t-il pas? Et bien, juste dans notre pays, dans notre ville, n'y a-t-il pas une famine spirituelle? Alors, je crois qu'il nous faut semer. Et vous savez, moi, on a le Dieu tout puissant qu'on ne doit pas limiter, mais Dieu peut multiplier après. Il peut multiplier encore jusqu'à ce qu'il y ait un grand nombre de serviteurs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit d'Isaac qu'il eut il est devenu riche, etc. Il y a eu des brebis, toutes sortes de choses. Et un grand nombre de serviteurs. Et moi, je prie qu'il y ait cette multiplication et qu'ensuite, par cela, il y ait justement des gens venant à Christ, s'ajoutant un grand nombre de serviteurs. Et aussi les Philistins, par rapport à Isaac, il est dit, les Philistins lui portèrent envie. Le fait que nous soyons bénis peut susciter la jalousie. Il est dit au verset 15 que tous les puits qu'avec eux et son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Tous les puits qu'il y avait. Et vous savez que en ce temps-là, les puits, et c'était une bénédiction, une grande bénédiction, même encore aujourd'hui, dans certaines régions du monde, les puits, c'est une bénédiction. Et eux, les Philistins sont venus, ils les ont poussés, ils les ont remplis de poussière. La jalousie était là parce qu'Isaac était béni. Il était béni. Pour couronner le tout, le roi Abimélec va le chasser, car il était devenu plus puissant que lui. Mais Isaac va demeurer paisible. Malgré sa supériorité en force, il n'est pas entré en querelle et est parti ailleurs. Au verset 18, il est dit, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essec. Parce qu'il s'était disputé avec lui, ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. On va s'arrêter là pour l'instant. On voit que Isaac est vraiment béni. Il est béni. Il va là, il creuse, il trouve de nouveaux puits, juste même de l'eau vive. Vous savez, on pourra vous chasser. On pourra vous chasser, mais il n'en demeure pas moins que vous resterez bénis. On pourra vous malmener comme cela. Regardez Joseph. Et il était chez Potiphar. Et Potiphar le voit qu'il est béni. Il est béni. Tout ce qu'il entreprend réussit. De là, n'est-ce pas, il va lui donner toutes ces choses à gérer, tout cela. Et vous connaissez l'histoire. La femme de Potiphar lui fait des avances. Il refuse. Et là, calomnie, il a voulu abuser de moi, calomnie. Joseph se retrouve en prison. Et là, on crie, à l'injustice, oh là là, oui, mais qu'est-il dit? Que en prison, l'Éternel le bénit encore, il va l'élever en prison. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les circonstances qui font que vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce qu'il y a la faveur de Dieu sur vos vies. Et on pourra, comme ça, vous pourrez vous déplacer, aller à tel endroit, vous demeurez béni, vous êtes béni, changez, allez là-bas, vous êtes béni quand on est attaché au Seigneur. Le premier puits donnera le nom d'Essec, qui veut dire dispute, à l'autre Sitna, qui veut dire ennemi ou adversaire. Et au verset 22, il est dit, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Amen. Amen. On voit à chaque fois que Isaac, il s'en va, il va là, et il ne fait pas de vagues, il ne fait pas de remous, et Il n'entre pas, il y a l'opposition qui est là, mais on voit que Isaac ne rentre pas en conflit. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'Isaac avait compris cette grande réalité, cette grande vérité spirituelle. C'est que ce n'était pas ses puits qui étaient bénis, c'était lui qui était béni. Donc, c'est un peu ça la pensée. Donc, c'est pas grave, prenez-les les puits. Prenez les puits, bouchez-les, je m'en irai, je retrouverai autre chose. Parce que c'est pas ça qui est béni, c'est moi qui suis béni. Et vous pouvez dire la même chose de vous, on pourra me déjeuner, etc. Je retrouverai, puisque Dieu m'a béni. Au verset 24, il est dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. On voit que Dieu lui réitère sa promesse une deuxième fois. Je te bénirai, c'est certain. Et puis, on voit, pour terminer, au verset 26, Abimélec vint de Guérar auprès de lui. Certains, on retrouve Abimélec, là, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Je fais juste une pause là. Ils ont vu qu'Isaac était béni. Quand quelqu'un est béni, ça se voit. Et il continue, voyons, l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous faisions alliance avec toi. Jure que tu nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Alléluia. Et pour conclure, versets 30 et 31, Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Amen. Amen. Et là, pour les dernières minutes, là, j'aimerais insister sur le dernier, la fin là, du dernier verset. Il les laissa partir et ils le quittèrent en paix. En paix. Vous le savez, l'annonce a été faite que, avec mon épouse, ma fille, nous en allons. Et, je crois que, il est moins un petit peu de dire les choses quand on a passé plusieurs années dans une assemblée pour faire suite au message, vous dire que nous avons été bénis au milieu de vous. Nous avons été bénis depuis 2011. Nous sommes là par diverses choses. On n'aurait pas le temps de retracer, mais de vous dire que nous avons été bénis au milieu de vous. Vous avez été là comme des frères, des sœurs, des parents, des pères, des mères. Voilà toutes sortes de choses. Et vraiment, je tenais à le dire que c'est très important parce que on a débuté le ministère ici et je crois qu'il y a une place importante qui est gardée comme ça quand c'est le début parce que voilà il y a là un bagage qui est là et un bagage qui est pour moi, pour nous, une bénédiction parce que nous en allant autre part, on pourra faire bénéficier de la bénédiction que nous avons eue ici. Juste simplement une image, alors que ça faisait pas longtemps que j'étais arrivé, et un jour, il y a eu cette pensée qui est venue comme cela, que j'étais à la bonne école. Tu es à la bonne école. Et quelques temps plus tard, j'étais au téléphone avec ma mère, et en parlant, ma mère, elle me dit, je savais pas, ma mère, elle me dit, tu sais, là, elle me dit, tu es à la bonne école. Et juste une image que j'ai eue, j'étais ici, une image qui est venue marchant sur un chemin et avec un sac à dos, gros bagage dans le dos, un sac à dos. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, eh ben, j'amassais des choses que je mettais dans mon sac à dos au fur et à mesure que j'avançais. Et j'ai, cette image est venue et j'ai compris que tout ce que j'ai amassé ici me servirait pour tout le reste de ma marche. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Un grand merci à chacun de vous particulièrement. Que Dieu vous bénisse en abondance et le fait, puisque de toute façon, vous êtes bénis. Amen. Et il est 11h15. Ah, mais non, j'ai appris le respect des horaires, on me dit. Alors, que dire d'autre? Mais il y a peut-être une noix aussi qui pourrait.
Mais tu as dit les choses bien, elle peut venir.
Comment?
Tu as dit les choses bien.
Donc, elle peut venir, viens, hein? Ben oui, et nous? Ben oui. Deux minutes, d'ailleurs. Pourquoi pas ça va? Oui, alors nous l'attendons.
C'est là.
Hop là, vas-y.
1 minute 50, d'accord. Alors David a déjà bien parlé, donc c'est quelques mots pour vous dire au revoir. C'est vrai que c'est toujours déchirant, surtout quand on quitte des frères et des sœurs de valeur. Nous sommes mariés ici, on a présenté Ambre ici. Et vous avez vu nos premiers pas dans le ministère, c'est vrai. On a beaucoup appris et on a grandi avec vous et grâce à vous. Et on vous remercie. Et vous êtes devenus chacun, chacune, une partie de nous, des membres de notre famille. Et nous avons vécu, c'est vrai, comme le disait David, des choses inoubliables ici. Et on vous remercie pour votre soutien. Vous êtes une église chaleureuse, une église courageuse. Et vous serez toujours dans nos cœurs et dans nos pensées, forcément. Et nous vous aimons. Soyez richement bénis.
Merci. Voilà, merci bien. Voilà, gloire au Seigneur. La formation est terminée pour moi. La formation est terminée. Quand David est arrivé la première fois, nous nous sommes retrouvés à bout de bois pour le rassemblement avec la jeunesse. Et il a dit, mais je ne sais pas combien de temps je serai. Alors je l'ai pris en aparté en lui disant, tu n'encourages pas. Déjà, si tu penses au départ, le temps, mais il s'aperçoit que le temps reste court et passe. Mais nous leur souhaitons toute la grâce de Dieu dans leur prochain, séjour, stage, puisqu'ils vont le poursuivre, et que Dieu les bénisse en abondance, et qu'ils nous garderont en eux le souvenir de la grâce, de la bénédiction, et que son nom soit glorifié. Voilà, un autre va être formé. Notre frère Willing, notre frère Wilson et Willing, je me suis trompé. Voilà. Donc, pour vous rassurer, nouveau départ poursuivra sa route. Et puis, nous avons eu une réunion de restructuration lundi soir jusqu'à 23h. Et hier, nous avons eu notre réunion générale de l'heure des monitrices qui s'est très, très bien déroulée. Alors, transmettez nos salutations à l'église d'Amiens et à votre futur formateur. Et puis aussi, votre carnet va vous suivre, puisque vous êtes en stage, l'évaluation se poursuivra. Que Dieu vous bénisse, et nous aurons la joie de nous revoir. Voilà, abrite-les. Eh bien, les intervenants maintenant vont bien vouloir monter sur l'estrade. C'est pour vous qu'ils ont chanté ce chant. Voilà. Concernant la pensée de la semaine, vous pouvez rester si vous voulez. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Dimanche prochain, nous aurons le missionnaire Emmanuel Pradoulas de Madagascar, qui est en France pour un certain séjour, qui est aussi directeur Afrique. Nous l'aurons samedi matin pour l'étude biblique, 9h30 à 11h30, ouvert à tous. Bien sûr, chacun est concerné par son service. Et puis samedi soir, la réunion de jeunesse à 19h. Et hier soir, je suis revenu à la réunion de jeunesse. Il y avait très longtemps que je n'avais pas prêché à la réunion de jeunesse. Mais ils m'ont donné une bonne évaluation parce que je peux revenir. Et puis dimanche prochain, le culte à 9h45 avec notre frère. Mardi soir, la réunion de prière. Nous allons parler, nous continuerons à parler de la prière, nous approcher de Dieu de tout notre cœur. Et jeudi aussi, la réunion à 15h. Que Dieu vous bénisse.